et puis surtout cette idée que messian, mystique, même au-delà d'extrêmement croyant, ayant des sortes peut-être de visions prophétiques, finalement, juste avant de mourir, ça peut intéresser la réception. Alors, il ne s'agit pas de visions prophétiques, mais il s'agit surtout de reparler une fois de plus de l'Apocalypse, puisque je vous rappelle que l'Apocalypse est le texte qui intéresse messian tout au long de sa vie. Messian pensait que l'Apocalypse était pour bientôt. Il pensait en 1940, que pendant la Seconde Guerre mondiale, que c'était l'Apocalypse, la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, selon certains commentateurs, l'œuvre de musique de chambre la plus connue du XXe siècle, qui serait donc le Quatuor pour la fin du temps, a donc été composée dans le camp de prisonniers, au Stalag Görlitz en Silésie, et basée sur des textes de l'Apocalypse. Alors, en 1940-41, l'Apocalypse. En 1988-91, l'Apocalypse aussi, puisque Éclair sur de l'ail s'est construit sur des différents passages de l'Apocalypse aussi. En fait, comme ça, on voit bien que tout ce qui intéresse messian, eh bien, c'est ce texte, c'est-à-dire le texte le plus... Enfin, c'est toute la Bible, évidemment. Mais c'est ce texte qui est le texte le plus ésotérique de la Bible, le dernier, celui qui le clôt, et celui qu'on n'a pas fini d'essayer de comprendre, puisqu'il est d'un hermétisme, disons, particulier.
Il y a cette confusion avec Saint Jean des Évangiles, et Jean de Patmos est un personnage qui est dans les mines d'argent, qui fulmine, en fait, contre l'Empire.
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs thèses sur l'identité de Jean. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la thèse que vous indiquez qui est une thèse historique. C'est-à-dire qu'un mineur ne peut pas être l'évangéliste, etc. Mais il y a la thèse de certains croyants dont c'est pas une confusion. Enfin, c'est pas une confusion comme une étourderie. C'est-à-dire que c'est une thèse de certains croyants qui est de dire que Jean l'évangéliste, le bien-aimé, est en même temps Jean de Patmos qui, après des voyages, s'est retrouvé à l'âge de 90 ans, puisque l'Apocalypse aura été écrit vers 90 sous la dictée. C'est une thèse de croyants dans la mesure où c'est agréable de penser que Jean, qui est l'évangéliste préféré, le préféré du Christ, finit par écrire le texte le plus important. C'est une sorte de logique, ça donne un poids à l'Apocalypse, de penser que celui qui aurait été finalement le préféré du Christ finit par clore la Bible avec finalement un texte qui serait le texte préféré de la Bible. C'est un peu quelque chose de ce genre. C'est pour ça qu'il y a cette interprétation, cette volonté qu'il soit la même personne.
C'est-à-dire que de passer d'une théologie de l'amour à une théologie de l'extrême violence, c'est ça qui me paraît très étrange chez Messian. Cette tension, elle me semble toujours présente en fait dans sa trajectoire.
En fait, déjà, j'ai deux choses à dire. Sur la violence, comment elle s'orchestre avec l'amour chez lui, très facilement, il y a une violence chez Messian, en fait. Une violence de l'amour, justement. C'est-à-dire que dans l'Apocalypse, le Christ apparaît et un glaive sort de sa bouche. C'est une vision d'horreur. Mais pour un croyant comme Messian, ce n'est pas une vision d'horreur. Si vous êtes persuadé comme lui que la vie éternelle existe, alors peu importe qu'on vous tranche quoi que ce soit de votre vie, puisque de toute façon, c'est un mal pour un bien. Alors, il y a vraiment cette notion chez Messian de la violence des anges. Certains anges apparaissent et tranchent et détruisent. Justement, dans Éclair sur l'au-delà, des anges qui s'associent à l'Apocalypse, justement, par exemple. C'est ce qui est tranchant chez Messian et ce qui, d'ailleurs, participe aussi dans sa forme de certains aspects tranchants aussi. Chez Messian, il y a quelque chose qui est du domaine de la caricature. Et on coupe. Il y a dans sa façon d'écrire la musique parfois des mesures de pause. Entre deux sections, X et Y, qui vont être bien contrastées, on accentue encore le contraste par une mesure de pause. Et ça, c'est d'une simplicité telle qu'aucun autre de ses contemporains n'y aurait pensé. Mais si on s'autorisait une simplicité, c'est lié au cristal. Tout simplement parce qu'il était suffisamment peut-être fier de ses inventions par ailleurs pour s'autoriser de les présenter avec clarté. Il aimait tellement ses modes à transposition limités qu'il pouvait, par exemple, les présenter de façon homophonique, en unisson, dans le sixième mouvement d'Éclair sur l'au-delà. Quel compositeur a écrit des unissons, c'est-à-dire une seule voix, des monodies augmentées à tous les instruments qui font la même chose, en même temps, même rythme et même note. Là, c'est même plus homorythmie, c'est homophonie. Pendant un mouvement entier, personne n'a fait ça, sauf lui. Vous voyez, c'est des choses extraordinaires. Et des homophonies, il y en a beaucoup dans son œuvre. Alors ça, c'est le côté emblématique de Messian. C'est cette clarté extraordinaire. Ce qui résonne bien avec l'esprit français, la clarté française, hein, Boileau. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. J'ai un chapitre qui parle de cette clarté à la française chez lui. Cette clarté vient au service justement d'une violence et de caricature et du kitsch. Parce que peut-être que souvent, Alors, on en parlait avant l'entretien de ce kitsch messian. Bah, le kitsch, ça fait partie justement aussi de ces contrastes improbables chez lui, à beaucoup de points de vue, et de cette provocation qui lui est tout à fait particulière. Et au fond, la provocation première chez lui, c'est de passer sa vie à évangéliser un public profane, c'est-à-dire même pas à l'église, mais dans des concerts profanes, de ne faire que des œuvres religieuses quasiment, sauf peut-être catalogue d'oiseaux, mais ailleurs qu'à l'église. Puisque pour lui, il n'a fait que des œuvres religieuses, mais aucune liturgique quasiment, sauf Sacrum Convivium, qui est une commande de l'église, parce que d'après lui, la seule bonne œuvre liturgique est le plein chant, le chant grégorien. Donc en fait, il y a une violence effectivement, et dans ses caricatures même, et dans une évocation dépoussiérée de la Bible, déniaisée, où on voit que pour le divin n'hésite pas à tuer quelqu'un pour son bien, puisque le divin sait, en supposant qu'il existe, que peu importe que quelqu'un meure, puisqu'après, il revit dans l'au-delà. Donc Messian nous rappelle ça. Et à l'inverse, il nous rappelle aussi des choses séduisantes comme la sensualité du ciel. Ça, c'est l'inverse. Dans Saint François d'Assise, à un moment, François s'évanouit en entendant un ange jouer de la viole. Dans le texte que Messian a écrit lui-même, comme Wagner écrivait ses poèmes. Donc l'ange joue de la viole et c'est tellement suave que François s'évanouit. Dans les années 70, les années hippies de liberté sexuelle, entendre qu'il y a une suavité au ciel, vous comprenez que c'est peut-être ça que l'Église lui a reproché. Justement, cette sorte de, bah, il disait là, sa théologia gloriae, c'est-à-dire le fait de ne voir dans le ciel que l'aspect positif, alors que l'Église voulait aussi garder, malgré Vatican II, eh bien, le Christ sanglant, le Christ qui ne plaisait pas à Nietzsche, c'est-à-dire le Christ cloué sur sa croix, etc.
Quand on regarde les partitions, à chaque fois, il nous précise ce qui va se passer. Je dirais presque qu'il anticipe toujours par l'énonciation ce qui va se passer. Ça, c'est quelque chose d'absolument étonnant.
Oui, alors c'est Maxime Joss, que je cite à un endroit, qui dit que Messian est comme préanalysé par lui-même. Et ça, c'est le côté compositeur-musicologue qui est dans un réalisme, il sait comment sera reçu son œuvre, puisqu'il passe sa vie à analyser des œuvres et à voir la réaction de ses étudiants devant telle ou telle œuvre. Ses étudiants lui ont montré successivement, pendant plusieurs décennies, à quel point il n'est pas facile de faire recevoir, y compris par des étudiants compositeurs, certaines œuvres. Il sait comment une œuvre va être composée de façon pré-reçue. Et donc pour ça, il assèche les bords, il met des mesures de pause, il fait ses homorythmies, ses homophonies, et effectivement l'œuvre est préanalysée, et il n'a pas peur qu'elle soit préanalysée, il n'a pas peur d'un vide, d'un éventuel vide perçu, parce qu'il a toujours l'impression d'une plénitude du langage évangélique, enfin du langage liturgique, pas liturgique, du langage religieux au minimum derrière. Et il a aussi l'impression qu'il y aura au minimum un langage coloré, puisque lui voit. Il est synesthète ou synoptique, comme on dit. Il voit des couleurs avec les sons. Donc pour lui, il n'y a pas de problème. De toute façon, n'importe quel accord, même présenté de façon simple, tenu, sans aucune polyrythmie ni polyphonie, c'est un tableau. Quel est le problème de le présenter tel quel ? Donc en fait, c'est sa confiance en lui extraordinaire de synesthète et puis de religieux qui lui a permis cette simplicité peut-être particulière.
Pour continuer un petit peu sur le livre, pour avancer, vous avez choisi un sous-titre qui est intéressant, une étiologie de la médiation.
C'est la recherche des causes de la médiation. Alors la médiation, c'est la réception, mais c'est aussi ce que Messian prépare de la réception par son côté médiateur. Puisque dans un chapitre qui s'appelle « Centre », j'essaie de montrer que Messian est toujours sur la médiatrice entre public et monde des compositeurs, entre tradition et prospective, entre Jeune France, le groupe auquel il appartenait dans les années 30, et Vieille France, c'est-à-dire l'orgue au plein milieu du XXe siècle, entre mode chromatique, c'est-à-dire le dodécaphonisme, et mode diatonique, c'est-à-dire la tonalité, c'est-à-dire les modes à transposition limitée qui sont à la fois chromatiques et diatoniques, entre tout, c'est-à-dire que c'est toujours le conciliateur, il tient entre ses deux mains deux bords très écartés, et il peut être à la fois du côté de Boulez et de Landowski, ce qui est extraordinaire à cette époque-là, si vous voulez. Et finalement, en 1949, on a Turangali la Symphonie, qui est son œuvre, on va dire, la plus Broadway, puisqu'elle a été comparée à une opérette de Broadway par des critiques modernistes qui trouvaient que c'était insupportable d'accessibilité, d'une part, et la même année, Mode de valeur et d'intensité, qui sera son œuvre initiatrice ou pas, donc Milton Babbitt ou pas avant, du sérialisme intégral en entier, la même année. Vous voyez le conciliateur. Et en 1949, qui symboliquement est le centre du XXe siècle, c'est 1950. Donc il y a une symbolique du centre chez lui qui est très puissante. C'est le média, le médium, le média et la médiatrice que ce Messian. D'autres choses que je voulais dire avant qu'on oublie d'en parler, il y a un chapitre qui est le chapitre 1, enfin après le chapitre sur le centre qui s'appelle 0, sur les récits, sur les légendes qu'il y a autour de Messian qui sont importantes. Alors, on a déjà parlé du récit interne au conservatoire, le héros du conservatoire. Il y a le récit du Messian touristique, mais il y en a d'autres. Il y a le récit du Papageno qui se marie en seconde noce avec sa Papagena, qui est Yvonne Loriot au nom d'oiseau. Il y a le nom de Messian. On peut même pas dire messianien ou messianique à cause de la proximité, vous voyez, de merveilleuse de messianique. Donc en fait, Jung, qui se jugeait lui-même toujours jeune parce qu'il s'appelait Jung, c'est-à-dire jeune en allemand, et qui jugeait Freud toujours joyeux parce qu'il s'appelait Freud, c'est-à-dire comme à côté de Freude en allemand, Jung aurait dit que Messian est un messie parce qu'il s'appelle Messian, ou Lacan se serait amusé à ça. Donc il y a une sorte de fable permanente dans le monde de Messian, d'autant plus appuyée que Messian fabrique des fables lui-même. Malheureusement, la fable de ce qu'il a fait en 1942, c'est-à-dire d'après lui, encore, il aurait été encore interné alors qu'en fait il y aurait eu des compromissions avec le régime de Pétain, on commence à le découvrir un peu à cette époque-là. Des fables aussi sur d'autres aspects, il invente sa vie, des fables sur son langage musical, d'après moi dans Technique de mon langage musical, où il accentue des aspects très peu importants de son langage et puis il en occulte d'autres, comme par exemple cette fameuse homorythmie. Mais Messian est en même temps parfois un clown. Quand vous le voyez dans ses émissions à la télévision où il montre le solfège des oiseaux, il se met à faire d'un seul coup, et voici, je sais plus quel oiseau, il part sur deux batteries très rapides, et puis Messian se met à faire tico, 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 tico. Vous voyez, vraiment avec un air ahuri, est-ce qu'on imagine Boulez faire ça? Alors on imagine John Cage faire ça, parce que John Cage fait à peu près ce type de clownerie dans une émission, d'ailleurs à peu près à la même époque, en 1960. I Got a Secret, où il fait Waterwalk devant un public qui croit à un gag. Et Cage joue de l'ambiguïté entre être simplement dans le canular ou un grand compositeur de musique contemporaine. À part Cage et Messian, pour des gens de cette renommée, je veux dire, je ne vois pas trop de clowns, si vous voulez. Ça va dans le sens de la thèse de Jean-Yves Jouannet, qui écrit dans son livre L'Idiotie, que le moderne est l'idiot. Mais ça marche pas chez les autres compositeurs, sauf chez... Alors c'est, à mon avis, un vecteur, ça, de médiation aussi, cette grande accessibilité. Il y a aussi, si vous voulez, le mythe, finalement, de l'organiste fabuleux, improvisateur, très mythe populaire, puisque ma mère allait à la messe à la Trinité dans les années 40 et a entendu Messian improviser à la Trinité, et il y avait ce mythe de Messian est derrière les orgues, et imaginez un compositeur derrière ses orgues, comme un enchanteur derrière ses alambics, c'est le mythe finalement du maître de chapelle. Vous savez, c'est un mythe extrêmement ancien qui, bizarrement, par diachronie, demeure au XXe siècle. Alors ça n'étonne pas chez Tournemire, mais chez un compositeur d'une importance de Messian, ça pourrait être étonnant. Écrire un livre d'orgue en 1951, c'est comme écrire un grimoire. C'est ça aussi, c'est le mythe de diachronie. Mais bon, alors il y a le mythe aussi du héros de guerre, du prisonnier de guerre, hein, qui a été extrêmement important. On a écrit des livres entiers sur Messian prisonnier. Messian est comme préparé par une fable collective, c'est assez extraordinaire. Et un autre aspect que je voulais souligner avant, c'est de dire que pourquoi est-ce que Messian a été de mieux en mieux reçu peut-être au fil des années, c'est qu'en France on a tendance à oublier, puisque nous sommes républicains, c'est-à-dire laïcs et jacobins, et donc assez peu finalement propice à une sorte de consensus magique dans notre pensée. Peut-être aucune culture, plus que la France, n'est laïque d'un certain point de vue. On a tendance à oublier qu'à l'étranger, la pensée magique est quand même mieux assise, même chez les intellectuels. Et on a tendance à oublier aussi que même en France, à la fin des années 90, donc après la mort de Messian, mais dans une période où la réception de Messian continue à progresser, et encore aujourd'hui, il y a selon moi un retour à ce que Malraux avait prophétisé, c'est-à-dire le XXIe siècle, avec un retour d'une possibilité de pensée magique. Ce qui est obligatoire quand vous voyez que même en France, un roman en 1994 comme L'Alchimiste, qui était une sorte de roman New Age, vous savez, un peu avec mélange d'atmosphère issue du Coran, de la Torah, a été vendu à, je crois, 25 millions d'exemplaires, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que c'est qu'Harry Potter, par ailleurs, si ce n'est évidemment le jeunisme, c'est-à-dire l'enfant qui est le héros, y compris de l'adulte, parce que les adultes lisent Harry Potter, mais surtout l'enfant sorcier, c'est-à-dire l'enfant magicien. Donc la pensée magique étant dans une recrudescence, un retour, et Messiaen, face à un retour de la pensée magique, est le compositeur magicien, est le compositeur de l'amour, est le compositeur mystique par excellence. Alors il y en a d'autres, il y a Chelsea, il y a Stockhausen, il y a même Pierre-Henri d'un certain point de vue, et puis Penderecki, Goretzky ou Arvo Pärt, évidemment, complètement, extrêmement croyant, mais Messiaen représente encore plus, finalement, cette illumination, et je pense qu'il peut intéresser un public qui aura vite accès à cet aspect de son personnage, par les programmes, par le titre des œuvres. Il intéressera un public potentiel avant même que ce public n'entende les œuvres. Et finalement, même si le public entend ses œuvres et que ses œuvres, dans un cas, ne lui plaisent pas, eh bien, ils garderont l'idée d'un compositeur d'amour. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, pour la médiation, est fondamental. Surtout si ce compositeur d'amour est parfois servi par des textures de cordes qui sont les textures d'amour romantiques du 19e siècle. Donc vous voyez, c'est des choses très simples comme ça. Quand vous regardez sur YouTube aujourd'hui, il y a des mouvements d'éclair sur l'au-delà qui sont extraits. Et vous avez par exemple le Christ, lumière du paradis, qu'on entend où il n'y a que des cordes, et d'ailleurs que avec des accords, qui déroulent donc leurs lents accords au service du Christ. Donc, et on voit des images d'arbres. Vous savez, comme si on avait une sorte de film qui nous montre une nature déstressante. Et donc, Messiaen, c'est aussi tout simplement pour un certain public, je ne sais pas exactement lequel, eh bien, des gens qui vont se faire un massage déstressant aux pierres chaudes, qui font du yoga, et qui vont avoir cette musique qui sera quand même plus accessible de ce point de vue-là que n'importe quelle page de Boulez, et même n'importe quelle page de Ligeti. Bien que Kubrick ait servi Ligeti par ailleurs. Donc voilà ce que j'essaie de montrer dans certains aspects, mais en essayant de documenter tout ça, évidemment, parce que c'est difficile de parler de ça sans beaucoup d'étayage. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur ce texte. C'est le texte sur lequel j'ai le plus travaillé. J'aurais jamais travaillé autant, je pense, dans ma vie sur quelque chose, parce qu'il fallait étayer sociologiquement, philosophiquement parfois, et puis musicologiquement, des idées qui sont difficiles à défendre autrement sans étayage.
Merci Jacques Amblard. Donc, 20 regards sur Messiaen, une étiologie de la médiation.